Ça c'était des mots provençaux, ça. C'est marseillais, ça. Dégueun. Ça, les trucs marseillais, je pourrais le prononcer comme il faut. Gobé, gobi. Bon, moi je dis aioli, mais il y en a qui disent, papa, il dirait aioli. Il mettrait un accent. Il dirait l'aioli. Moi je dis l'aioli. Peut-être que je le dis en parlant pointu, à la parisienne. Non, non, moi je dis, on a mangé l'aioli, et papa il dira, ah, j'ai mangé un bon aioli. Il va le descendre. Voilà.
Je t'ai visité à des moments.
Et c'est jeune.
Oui, parce que je sentais pas la différence. On l'a redit deux fois là. Alors, il y a jeune ici.
Et
ça, c'est du verbe jeûner, jeûne. Mais je sais pas bien le dire.
Mais c'est bien, il fallait le dire comme tu le dis toi, voilà. Pas comme il faut.
Un jeûne et du verbe jeûner. Jeûne,
nous dans le midi on fait pas la distinction,
non.
Quoi.
Non,
souvent.
Pas tellement.
Pas vraiment.
C'est comme pâte.
Et pâte.
Et pâte, moi je sens que je le prononce pareil, pâte et pâte. Hein? On a mangé des pâtes. Je le dis pas ça. Hein? Non, je dis pâte. Tout court. Je sais que mon accent fait sourire des fois. Pourtant j'essaie de faire attention. Hein? Mais quand j'ai le ministère, les Parisiens au téléphone, je dis, mais moi je suis du midi, oh, ça s'entend, ils disent.
Pourtant, moi je trouve pas que tu aies un accent très fort. Mais
Alors là, je vais te raconter un truc. Lorsque j'ai retrouvé ma famille et que j'avais avec eux des échanges absolument fous au téléphone, quoi, c'était dans l'émotion, tout ça. Et une fois, une de mes collègues de bureau me dit que quand j'ai raccroché le téléphone, au bout de 20 minutes ou 25 minutes d'échange au téléphone, elle m'a dit que j'avais l'accent de Narbonne. Ça m'avait trop fait rire. Parce que cet accent pour moi, c'est... Parce qu'ils ont un accent en Narbonne. Mm-hmm. Pas le même que le mien. Ça les fait sourire, mon accent. Mm. Et moi, je souris de l'air. Ouais. Ils ont un accent, ça monte comme ça. C'est rigolo parce qu'on a des échanges. Et mes petits-neveux, Samy, là, qui était en Alsace, quand je lui avais parlé au téléphone, je n'oublierai jamais, il avait dit, c'était au premier échange, il avait dit, elle a l'accent qui chante. On dirait qu'elle chante. Elle a l'accent qui chante. J'ai dit, ben oui, sûrement je chante. Avec leur accent de là-bas. Voilà.
Raconte-nous, puisqu'on parle de ça, un peu comment... Comment t'as retrouvé finalement tes frères et sœurs du côté donc de ton père biologique?
Oui.
Ah, c'est un sacré parcours, ça, c'est intéressant, c'est marrant, quoi. Oui. C'est passionnant cette histoire.
Oui. Ben ça, c'est vrai que c'est une grande histoire parce que je crois que le manque de mon père, c'est quelque chose que j'avais toujours ressenti au fond de moi. Mais ce manque-là est apparu avec beaucoup plus de force après mon deuxième divorce, allez, on va dire pour simplifier. Et la nécessité de me remettre en cause sur un plan de ce que j'étais. Quand on a un problème affectif comme ça, on remet en cause fondamentalement le fonctionnement. Et du coup, le manque de mon père est revenu très fort, quoi. Hein. J'arrivais pas à m'entendre avec deux hommes importants de ma vie, puisque j'ai eu deux enfants. Et l'absence de mon père a ressurgi avec énormément de violence. Donc, j'ai entamé ce que je peux appeler un énorme travail sur moi, un travail sur soi, hein. En faisant des conférences, en faisant des stages de développement personnel, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et au travers de ça, ce qui est apparu avec une grande force, c'était justement ce problème lié au vide de mon père, quoi. Mm-hmm. Et au travers de ça a duré quand même de 93 tout ça jusqu'en 97, donc ça faisait 5 années pleines. Et en 97, j'ai eu, à partir d'une formation aussi, hein, c'était au Festival Tendresse, je m'en souviens, à Avignon, et d'un seul coup, je me suis dit, mais j'ai envie de faire quelque chose que j'ai pas fait depuis si longtemps, c'était d'aller, ne serait-ce que sur la tombe de mon père. Mon idée, c'était d'aller sur la tombe de mon père, me recueillir sur la tombe de mon père. Et il y a des gens comme ça, il se trouve que je me suis mis à croiser des gens qui m'ont donné l'élan, parce que j'avais envie de le faire, mais je l'avais jamais fait. Il est vrai aussi que ma mère était morte en 90 et que je m'interroge encore aujourd'hui. Si ma mère avait été en vie, je n'aurais peut-être jamais fait. Parce que pour moi, aujourd'hui, je l'assume pleinement avec tout ce que ça m'a apporté de joie. Mais aller rechercher mon père, c'était presque... C'était un peu trahir ma mère, ma famille. Mm-hmm. C'était l'idée que j'avais. Elle était fausse, cette idée. J'en ai conscience aujourd'hui.
Comment ça ?
Parce que... Pour ma mère, mon père, il n'existait plus. Elle avait rayé de ma vie. Ma mère, elle n'en avait pratiquement jamais parlé. Je ne savais rien de lui. Ce que je sais de lui, ça tient sur une page d'écriture. Et on me l'avait dépeint de telle façon que on ne pouvait pas avoir de l'amour ni s'intéresser à lui. Quoi. Il fallait le bannir. Elle avait même demandé la déchéance paternelle. Qu'elle n'avait pas fait d'ailleurs, puisqu'elle avait abandonné l'idée de le faire. Elle était allée avec lui jusqu'au tribunal. Et j'avais 18 ans à l'époque.
Ah ouais,
ma mère avait dit...
Parce
qu'elle avait dit, si un jour, ton père il n'a jamais ni payé ni quoi que ce soit pour toi, si un jour il est vieux, qu'il est malade, et si il aura, tu devras payer pour lui, je ne veux pas, etc. Donc elle avait demandé une déchéance paternelle. Mmh. Et il avait été convoqué. Ils se sont retrouvés au tribunal, tous les deux. Et ça, c'est
et
ma
toi,
mère,
tu n'y
l'a toujours. Non, non. Et ma mère, on l'a toujours raconté. Au tribunal, devant eux, il y avait X cas de déchéance paternelle qui se traitaient, le même thème. Mmh. Et devant eux, d'un seul coup, d'autant qu'ils s'étaient parlé un peu avant, il avait dit qu'il s'était remarié. Il avait une femme qui était algérienne.
Donc ça, tu le savais.
Voilà. Et qu'il avait eu une petite fille qui s'appelait... Ça, je le savais.
Ah, d'accord.
Voilà. Et il avait eu un petit garçon...
Je savais que...
Si, je savais qu'il y avait...
Il
avait un petit garçon qui était mort à la naissance. Et donc, il avait raconté ça à ma mère et ils avaient échangé. Et puis après, ça venait à eux. Et devant eux, il y avait un cas de déchéance paternelle. Et ma mère a dit que d'un seul coup, quand elle a entendu ce que le juge disait sur ce père auquel il voulait enlever... Enfin, qui voulait déchoir de sa paternité, elle me dit, je me suis dit, mais c'est pas possible, je me sens pas capable.
Je peux pas faire
ça. Voilà. Elle me dit, ton père avait changé, il avait refait sa vie, il avait une femme, il avait des enfants, il s'était passé du temps,
quoi, ouais.
Il s'était passé 18 ans depuis. Et d'un seul coup, elle a pris par la main, elle lui a dit, allez, viens, on s'en va. Et ils ont abandonné là, en plein le truc, ils ont dit à l'avocat, on arrête tout, on s'en va. Et ils sont partis. Et ça, tu vois, c'est extraordinaire
aussi,
parce que excusez-moi, on va reprendre.
Interruption des ouvriers, on arrête.
On va reprendre. Oui, je me souviens. Cette idée que j'avais d'aller simplement sur la tombe de mon père, je l'ai racontée à des gens que j'avais rencontrés comme ça. Et à un moment donné, c'est eux qui m'ont fait pratiquement entendre que quelque part j'avais envie de le faire, quelque part ça s'opposait pas, que je pouvais faire des recherches sans opposer ça à les deux familles, quoi. Et ça m'avait touchée. Et puis, dans les deux ou trois jours qui ont suivi ça, eh bien, je me suis lancée. Mais vraiment, je me suis lancée. C'est une vraie aventure, ça. Hein. Parce que dès l'instant où j'ai pris ma mère m'avait dit, mon père était né à Périac, Minervois, et je m'étais dit, je vais appeler la mairie de Périac, Minervois, pour savoir où il était enterré. Et à partir de là, j'ai été prise dans une véritable histoire, comme une succession d'événements que j'appelle aujourd'hui des non-hasards, hein, des choses comme ça. Et c'est parti comme ça. Quand j'ai appelé...
Oh, c'était assez fabuleux.
Ah oui, c'était fabuleux.
Histoire,
la standardiste de la mairie, quand je lui dis que je m'appelais Jacqueline Cassé, a dit, mais vous vous appelez comme ma tante. Mais comment ça, votre tante? Mais parce que vous êtes du village. Enfin, mais un tas de trucs. Rappelez le maire, j'appelle le maire, qui me dit qu'il avait très bien connu mon père, mais que c'était surtout son père à lui qui avait connu mon père. Donc j'appelle le père du maire. Cet homme-là se met à me dire que mon père n'est pas enterré à Périac, mais qu'il avait des frères et sœurs qui étaient... il s'était mélangé les pinceaux d'ailleurs, qui avaient des frères et sœurs qui étaient à Port-la-Nouvelle, enfin qui habitaient à Port-la-Nouvelle. Il me donne donc des noms que je connaissais pas. J'ai cherché à Port-la-Nouvelle, je suis tombée...
Donc tes oncles et tantes.
Ah oui, non, mais là c'était sur la famille Reste. c'était ma tante Reste s'était mariée avec quelqu'un qui s'appelait Reste. Donc elle m'a dit ah mais il y a quelqu'un qui est... et comme ça je me suis mis à aller chercher au téléphone. Au hasard des téléphones j'ai choisi un bonhomme qui s'appelait André Reste. C'était pile poil quelqu'un de cette femme qui était affilié à la famille. Il m'a donné le nom de la sœur de mon père et j'ai téléphoné. J'ai eu cette femme et à la seconde où je lui ai dit, je pouvais plus parler, hein, c'était des émotions. Je lui ai dit je suis Jacqueline Cassé et elle avait hurlé au téléphone. Elle avait dit vous êtes la fille de Jacques, mon Dieu, vous êtes la fille de mon frère, tout ça. Et moi, j'avais 52 ans, ces gens m'ont accueillie en me disant, on t'a attendu, on t'a toujours attendu, on a toujours su qu'un jour tu reviendrais. D'en parler, ça me fait l'émotion. C'était fabuleux. J'ai vécu des moments très très forts.
Et ouais, non, c'est vrai que c'est émouvant, quoi. Très fort. Et puis c'est beau, quoi. C'est vraiment. Moi, je me rappelle, c'était vraiment un moment.
C'est pour tout, ça que je l'ai écrit.
C'était tout, ça remuait vachement de choses, apparemment.
Mais... J'ai voulu l'écrire tout ça. Je l'ai écrit pour. Ça a duré 2 mois. Enfin, je les ai trouvés très vite, hein, dans l'espace de. À partir du moment où j'ai pris la décision de les chercher, ça a duré 3 jours. Hein, je veux dire, un appel en a amené un autre, etc. Et ça a été fou. Mais où tu es? Mais où tu es? Mais on t'a toujours attendu. Puis alors j'ai appris des choses inimaginables. Mais ta grand-mère, elle t'a toujours attendu. Elle a toujours... ça me fait pleurer. Elle avait gardé des photos de toi et tout. Des tas de choses que je n'avais jamais imaginées. Ma mère m'avait jamais rien dit. Ils sont là, mes grands-parents. Ça, c'est la photo de mon père. Ça, c'est ma grand-mère. J'ai les mêmes trucs qu'elle. Mon grand-père, mes frères et sœurs. Mais j'aurais jamais imaginé avant qu'un jour je puisse mettre la photo de mon père comme ça. Donc je suis allée les voir. Je suis allée voir il se trouve que c'était le 4 et le 5 août 1997. Je m'étais mariée un 4 et un 5 août aussi. 4 août, je m'étais mariée. Tu vois, c'est fou les choses de la vie. J'avais rencontré Robert un 9 août et j'ai retrouvé ma famille le 4 et le 5 août. Oh, mon Dieu, quelle histoire. Et quand je les ai eus au téléphone, ils m'ont dit « Mais il y a aussi... Tu as aussi 2 frères et 1 sœur. Oh, la sœur, je le savais, Marie. C'était enfoui, Marie-Claire, hein, je le savais. Mais 2 frères. Oh. Et là, j'avais appris que mon père s'était remarié, qu'il avait lui aussi divorcé de sa 2e femme, qu'elle l'avait quitté, qu'ils étaient partis habiter à Paris et qu'eux-mêmes, la famille, n'avait plus jamais eu des nouvelles de ses enfants. Donc, je les ai retrouvés. Je suis allée les voir. Après, ma fille est allée les voir. Après... Mes enfants sont allés les voir. On a tous retrouvé la famille. Et j'avais promis à ma tante que j'essaierais de retrouver mes frères et sœurs. Et début janvier 98, je me suis mis à les chercher. Alors là, j'ai fait toutes les casses automobiles de la région parisienne. Et puis, j'y arrivais pas. Et
pourquoi les casses automobiles?
Parce que ça s'appelle casse. Et quand tu demandes casse, tu tombes sur les casses automobiles.
Ah, ouais.
Tu peux pas savoir le nom. C'était de la folie. Chaque fois que je faisais casse, je tombais sur les casses automobiles. Et puis, j'ai même failli écrire à Jacques Martin, là. Parce que ma tante m'avait dit qu'elle avait... Non, pas perdu de vue. Elle avait cru voir ma sœur à une émission de Jacques Martin à la télévision.
Ah ouais. Et c'était vrai finalement?
Non, mais pour avoir l'émission, pour avoir l'adresse de l'émission de Jacques Martin, je suis allée sur Internet. Et c'est là que quelqu'un m'a dit, mais tu sais par Internet, si tu fais comme les trucs de la télé, là, ouais, tu fais 36, 16 ou je sais pas quoi, un nu ou je sais pas quoi, tu peux essayer de trouver quelqu'un. Je dis, ah bon? Ben, je suis allée sur Internet et j'ai tapé cassé. 36-15, tchoum. J'en ai trop... D'abord, il y en avait un à Soultz, en Alsace, un autre à Perpignan. Bon, j'ai dit, je vais appeler d'abord celui-là, en Alsace. Donc, j'ai d'abord appelé...
Mais tu connaissais les prénoms, quand même.
Ben, c'est la famille qui me l'avait dit.
Oui, la famille te les avait dit. Ouais.
Il y avait une cassée Violette, parce que la femme de mon père s'appelait Violette. Donc, je l'ai appelée, cette femme, à Paris. C'est une Belge. Elle m'avait dit, non... Quand mon père s'est remarié, sa 2e femme, on l'appelait Violette. Son vrai prénom algérien, c'est Ourida.
Ah d'accord, voilà. Mais
en France, ici, il avait nommé Violette. D'accord. Et j'ai appelé une Violette cassée à Paris. Ça n'avait rien à voir. C'est une dame qui était belge, qui m'a souhaité bonne chance pour mes recherches et tout. Et après, parce que je cherchais à Paris, tu vois. Et comme après, je dis, bon, mais allez, je vais faire... L'autre, il est où? À Soult. Et je suis tombée, c'était mon frère. J'ai eu Nadia, sa femme, qui m'a dit « mais oui, alors je m'appelle Jacqueline Cassé, je recherche mes frères, mais oui, j'ai une sœur qui s'appelle Marie-Claire, mais oui, je dis « mais comment, mais oui ?» Elle m'a dit « mais oui, c'est ici, oh, ma pauvre !» À Alors là, pendant une demi-heure, on n'a fait que parler au téléphone, on faisait que pleu. Elle lui dit, tiens, je te passe ta sœur. Alors il avait dit, mais quelle sœur? Marie? Il dit, non, Jacqueline, mais qui c'est? Parce qu'eux, ils ne le savaient pas.
Ils ne savaient pas du tout. Ils n'étaient pas du tout.
Non, 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 ils ne savaient pas. Aurida leur avait jamais dit.
Et Aurida, elle le savait.
Oui.
Violette.
Oui. Elle ne leur avait pas dit. Et donc, j'ai parlé avec mon frère. Et le soir, j'ai appelé Dominique à Perpignan. Et là, avec Dominique, c'était au téléphone. C'était la folie aussi avec Dominique.
Et c'est pareil, Dominique, et tu lui as appris que...
Ben oui, mais lui, Albin avait appelé entre temps. Il avait dit, tu sais, il y a une femme qui nous a téléphoné.
C'est pas ce qu'elle nous veut, celle-là.
Ah bon, mais oui, c'est vrai. Et Dominique me dit... Mais tu sais pas, oui, mais je crois qu'on a une autre sœur, qu'il y en a une autre. Je dis, mais laquelle? Il dit, mais oui, parce que lui, il disait pas papa, il disait Jacques, hein, il appelait pas, il disait, mais paraît-il qu'il avait une autre femme et tout. J'ai dit, mais c'est moi, je suis l'autre et tout. On rigolait. Et il m'a donné l'adresse de Marie, et le lendemain, j'ai appelé Marie en Algérie. Et je lui dis, voilà, Marie Bodis, oui, c'est Jacqueline Cassé, je suis ta sœur, je te dis pas Marie au téléphone. Mais j'étais dans un état, c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé sur moi, j'avais pris beaucoup de force, je faisais la méditation, j'avais médité tout le matin, j'appelais ma sœur, mais avec Audrey me dit, j'oublierai jamais, tu lui as dit ça avec un aplomb, comme quelque chose. Marie, elle pleurait, on était dans toutes les deux au téléphone.
Ouais, tu parles.
Mon Dieu, mais j'ai écrit tout ça parce que j'ai pas voulu le perdre, j'ai pas voulu l'oublier. C'était des moments extraordinaires de force, de et tout s'enchaînait, tous les éléments s'enchaînaient. Une personne me donnait un renseignement qui portait le prénom d'une autre personne qui me donnait le. Une succession de synchronicité, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Y compris quand je suis arrivée dans cette famille, j'ai trouvé il y avait une cousine germaine. Il l'avait appelée Jacqueline comme moi pour qu'il y en ait une bien présente. Cette Jacqueline, elle a eu un fils, elle l'a appelé Frédéric, comme moi aussi. Et sans arrêt, avec que des trucs comme ça, qui s'enchaînaient, qui se regroupaient. Magique, c'était magique. Puis quand je les ai vus, non. Quand j'y suis allée, d'abord j'ai pleuré tout le long. Non, j'ai vécu des choses extraordinairement belles, extraordinairement fortes. Ça m'a permis de retrouver mes racines. C'est immense les racines, hein, dans la vie de quelqu'un. Donc ça a été fabuleux. Donc je l'ai écrit pour que mes enfants gardent la trace, pour que ça ne s'envole pas, pour que ça ne s'évapore pas. Comme j'ai toujours écrit, j'ai un journal, j'écris beaucoup, je l'ai écrit au quotidien, ce que j'avais vécu. Et j'ai mis longtemps, hein, j'ai mis jusqu'à l'année dernière, pour le faire lire à mon papa René. J'ai tout fait lire. Il a tout lu.
Et alors il a dit quoi?
Il n'en a pas parlé.
Il t'en a pas parlé?
Non.
Mais, et t'as pas osé lui demander?
Non, mais entre-temps, quand je suis revenue et que j'avais vraiment retrouvé ma famille, parce qu'il n'est pas simplement retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mon lien à mon père.
Oh, ben oui.
Moi, je dis j'ai retrouvé mon père et ma famille, j'ai retrouvé mon lien à mon père. Je me suis autorisée à reconnaître que j'avais un amour immense pour lui et que toute ma vie m'avait manqué cet homme. Hein, ça, je l'ai bien intégré, ça. Et mes frères et sœurs, c'était pareil, parce que... Moi, je me suis aperçue que j'étais celle qui avait le mieux vécu tout ça. Parce que ma mère s'était remariée avec un homme, justement, mon papa René, qui est bien enraciné, qui est d'ici, qui nous a élevés avec des tas de principes, avec beaucoup d'amour, avec une famille chaleureuse, très pleine de vie, pleine d'élan, tandis que mes frères et sœurs ont vécu autre chose. La maman était algérienne, ils ont vécu à Paris dans des conditions de vie très difficiles. Ils ont été des délinquants, hein, vraiment des délinquants très forts. Et un de mes frères, Albin, est mort l'année dernière, hein, et au mois d'avril, hein, en 2001. Et il était très malade, quoi. Hein, vraiment, ils ont eu une vie difficile, très très difficile. Moi, j'ai mesuré combien l'absence de père, ça, j'en avais souffert, mais ça a été équilibré quand même par autre chose, tandis que mes frères ont été des délinquants, ils en souffrent encore.
Ils avaient quel âge à peu près quand ils se sont séparés, les ton
Marie
père
avait,
et,
Marie
et
avait 9 ans, Albin avait 6 ans et Domi 4.
Ah, je pensais qu'ils étaient plus vieux.
Non, non. Mais mon père s'était jamais guéri de cette deuxième séparation. Hein. Il est mort 5 ans après. Hein.
Donc c'est elle qui l'a quitté.
Oui, elle l'avait quitté. Elle était beaucoup plus jeune que lui, elle avait 15 ans de moins. Et elle l'a quitté, elle a rencontré un homme et elle est partie, quoi. Hein. Donc pour mon père...
Ah ça oui, c'était pas son associé ou une histoire comme ça.
Voilà. Et donc mon père, ça n'est pas guéri, il est mort 5 ans après. Donc, j'ai retrouvé ces petits frères et sœurs. Je disais, c'est des oiseaux tombés du nid, là. Ils avaient beaucoup de souffrance en eux. Mais c'est extraordinaire. Mon frère Dominique a eu un petit garçon l'année dernière, dont je suis la marraine. Hier au soir encore, je l'avais au téléphone. Il gazouille. Ça a été très fort pour mon frère Dominique de retrouver ce lien à la famille. Parce que du coup, mon frère a retrouvé la famille de Narbonne. Et lui aussi, qui était tout seul, qui se considérait tout seul, il a retrouvé tous les cousins de Narbonne. Donc, il y a un lien qui s'est refait et qui est vraiment qui est indéfectible. Ça, c'est devenu une partie de nous. Ça ne bougera plus. Donc, cette étape dans ma vie, ça a été immense pour moi. C'était l'aboutissement de tout un travail, arriver à intégrer combien j'avais de l'amour en moi et pour mon père, quoi. Et ça m'a ouvert d'autres perspectives pour ma vie, parce que j'ai pu récupérer plein de choses en retrouvant cette force-là. Je crois qu'au-delà de tout, c'est que je me suis rendu compte qu'on m'avait aimée. Parce que je pensais que je n'avais pas existé pour mon père. Alors qu'en retrouvant ma famille, j'ai appris tout plein de choses. Que lui-même, il avait essayé de me voir plusieurs fois, que chaque fois, on l'avait quand même plus ou moins chassé, qu'il avait toujours gardé une photo de moi dans son portefeuille.
Tout le temps,
même à sa mort, que quand ma grand-mère était morte, on avait mis dans son cercueil la photo de tous ses petits-enfants, y compris de moi. Moi, j'ai trouvé des photos de moi âgée de 6 ans, 5 ans, 6 ans, chez ma grand-mère, alors que ma mère m'avait jamais dit ça.
Et c'est elle qui lui avait fait passer.
Bardi, c'était l'écriture de ma mère derrière.
Mais à qui?
À ma grand-mère.
Moi, pas à Jacques, à la grand-mère.
Non, à la
grand-mère.
Donc
elle avait gardé contact avec.
Oui. Ma mère avait déchiré toutes les photos de mon père. Je savais même pas son visage. Je j'avais aucun souvenir. Oui. Et les premières photos de moi bébé, petit bébé, entre mon père et ma mère. Tu vois ce que c'est de ne pas avoir même une photo de soi quand tu es bébé? Et un jour, c'est chez eux, dans ma famille, que j'ai trouvé cette photo où je suis entre mon père et ma mère. C'est fou, des photos, des images comme ça, ça répare, ça. Ah là, ça m'a. Puis surtout, je me suis aperçue combien ils m'avaient attendu aussi, si tu veux, tu vois, ces gens.
Comment ça se fait qu'ils aient pas. Si t'avais tant espéré, finalement, pourquoi ils ont pas essayé
Ben oui, c'est pour ça que je.
C'est peut-être pas facile, mais.
Non, c'est pas facile. C'est pour ça que tu vois, j'ai gardé une sorte de. J'ai réussi à dépasser ça maintenant, contre ma grand-mère aussi. Curieusement, j'en veux plus du tout à mon père, de tout ce qui a pu se passer, plus du tout. Mais ma grand-mère, ça a été plus difficile. Et je lui en voulais de ne pas avoir essayé, malgré la distance, de garder un contact avec ses petits-enfants.
Mais peut-être, comme tu disais, comme à chaque fois que ton père essayait de te revoir et que... Et qu'il en avait été un peu empêché, et que toi aussi tu m'avais raconté un peu qu'une fois il voulait te voir toi non plus,
mais
tu
oui,
voulais
mais
pas le
parce
voir.
On m'avait tellement inculqué dans la peur de lui en le présentant comme un. C'était le militaire qui allait m'enlever, s'il fallait surtout pas que je m'approche et tout. Le jour où je l'ai revu, moi, je le sais, je l'ai vu 6 fois de toute ma vie, mon père 6 fois, donc je veux dire, c'est pas beaucoup, une fois je m'étais enfuie, je m'étais cachée, je hurlais, on me traînait vers lui, je veux dire, c'était terrible, je voulais pas. Et puis une autre fois il était venu me chercher, j'avais 16 ans. Il avait décidé de venir me chercher et puis j'ai pas voulu aller avec lui. Mais ce que j'avais appris, mais tu sais pas, j'avais.
Donc si t'avais 16 ans, il avait peut-être déjà divorcé de Henri.
C'est ça, alors. Non, Marie venait de naître, c'était
Marie
en 62.
Tu avais 16 ans d'écart avec.
oui. Marie est née, on a 17 ans d'écart. Moi je suis née en octobre, Marie est née le 2 avril. Et mon père est venu à Marseille. Et Marie, elle a bien fait cadrer les dates, tu sais. Chercher les papiers comme quoi elle était bien divorcée de ma mère pour pouvoir se marier avec Ourida.
D'accord.
Voilà. Et donc, il est venu et j'étais à Anatole France. Et ça aussi, ça fait partie des magies de la vie. Moi, j'étais à Anatole France. Je sors du lycée. Je me coiffe dans la devanture d'un coiffeur. Là, je me refais le chignon gonflant, je sais pas quoi. Je vois un homme passer derrière moi, un militaire. Je me retourne, je le regarde, il me regarde, il me dit « Tu es Jacqueline ?» C'était mon père. Il était venu, on lui avait dit, des amis lui avaient dit que j'étais à Anatole France, il est venu à la sortie du lycée, il a attendu. Mais il ne m'avait pas vue depuis... Je devais avoir 11 ans, à peu près.
Et là aussi, tu... T'as réagi comment alors quand même?
Ah ben là, nous avons descendu la rue Paradis ensemble, de la place Estrangin où est la caisse d'épargne et le lycée Anatole France jusqu'au Vieux-Port. Ça fait à peu près 400 mètres. Il m'a accompagnée, un quart d'heure.
Et c'est tout?
C'est tout. Et il est allé m'accompagner à l'arrêt du bus. Et il a payé le ticket de bus. Et moi, j'avais honte. J'avais honte.
D'être avec un militaire.
Avec un militaire. En plus, il disait c'est ma fille. J'étais pétrifiée. J'avais une honte. J'étais mal. Tu vois. Et en plus, il m'avait dit qu'il arrivait de Madagascar. Il avait fait la guerre et tout. Il me disait qu'il avait une voiture. Il me roulait les mécaniques. Il me disait j'ai une voiture. Ah bon? Moi, j'avais dit mais quelle voiture? Et tu vois, c'est au moment même où j'avais posé cette question, il y avait un grand coup de frein dans la rue. Et une voiture avait fait pile et elle avait tapé la voiture qui était devant elle. Donc, ça avait provoqué un choc, un accident. Et moi, il me disait qu'il avait une voiture et je lui avais dit, mais quelle voiture? Et il s'était tourné et il y avait eu cet accident-là. Et il avait dit la marque de la voiture qui venait de taper dans l'autre. Et à l'instant même où il avait dit, moi, j'avais dit, il me ment. Mais c'est vrai que ma mère m'avait toujours dit que mon père était un menteur, etc. Il y avait toute une image. Et je me disais, il me ment, il me dit n'importe quoi. Et il m'avait emmené jusqu'au port, donc prendre le bus, là. Et c'est là qu'il m'avait dit, et l'autre, il est gentil avec toi? Et je lui avais dit, qui, papa? Oui, il est très gentil. Et j'avais compris combien j'avais pu le blesser en me disant ça. Et je me souviens que j'avais pris le
cas. Mais ça t'avait fait plaisir.
J'ai tremblé comme ça pendant je sais pas combien de temps. J'étais complètement perturbée.
Ouais, tu savais pas trop comment réagir.
Ah oui, d'un seul coup, j'étais en face de cet homme. C'était mon père. C'est pas évident.
Enfin, tout ça pour
dire que...
C'est vrai que non, mais c'est vrai que peut-être que c'est à cause de ça que ta grand-mère n'a jamais pu non plus, elle, faire le pas. De, comme ton père avait été tellement rejeté à chaque fois qu'il a essayé de te voir, que la grand-mère, elle pensait...
Mais il leur avait dit, elle veut pas me voir, elle veut plus me voir. Oui. Mais j'avais 45 ans, maman est morte en 90. On était dans la cuisine, là, chez papa, il racontait des histoires. Et moi, comme toujours, je l'écoutais, je dis, tu vois, non. Et d'un seul coup, il me raconte, c'est lui qui me raconte, il y avait Robert encore, que mon père était venu me voir une fois, la fois où je m'étais cachée au fond des couloirs, que je voulais pas. Et sachant que moi, j'avais eu peur, que j'étais... Il avait pris avec un de ses copains, papa. Il avait mis un pistolet sur la tempe et il avait dit, si tu reviens, on te tue. Tu te rends compte? J'avais 45 ans, hein, quand j'ai entendu ça.
Mais tu comprends que ça n'a pas trop revenu. Hein.
Robert, on avait dit. Il m'avait dit, tu comprends mieux? Est-ce que tu comprends mieux? Tu sais, tant de choses se remettent en place dans la vie de quelqu'un quand tu crois que tu n'as pas été aimé, que tu n'as pas, on n'a pas eu d'attention pour toi, que tu n'as pas compté pour personne, etc. Et que d'un seul coup, quand tu rassembles toi-même toutes les pièces du puzzle, tu te rends compte que non, c'est pas vrai.
Mais vous comprenez aussi parce que.
Et ça transforme, ça a bouleversé. Mais j'étais prête, c'est qu'il avait fallu tout ce temps pour que je fasse ça. Donc, j'ai retrouvé mes racines, j'ai retrouvé la symbolique de mon nom. Moi, ce nom cassé, là, je pouvais pas supporter de m'appeler cassé. Ça n'a pas été rien de reprendre mon nom de jeune fille, entre guillemets, quand j'ai divorcé. Hein. Et puis après, j'ai su ce que ça voulait dire. C'est un nom qui s'ancre dans le... Justement, c'est un nom ariégeois. Ça veut dire loup cassé, hein, le chêne blanc. Hein. Ouais. C'est un nom très ancien, même, cassé. Et du coup, je l'ai intégré davantage, ce nom, tu vois. J'avais honte de m'appeler cassé. Hein.
Et maintenant,
je l'ai intégré totalement. Totalement. Et c'est curieux, puis quand même, petit truc, mes frères se faisaient appeler Casse. Casse. Alors que c'est cassé, notre nom. Hein. C'est vraiment cassé. Et Dominique, il se faisait appeler Casse. C'est pas joli, Casse, non plus, hein. Dans le casse de la Société Générale et tout, c'est moche. Hein. Eh bien, mon frère peignait. Il peint toujours. Et il signait ses tableaux casse. Et quand on s'est retrouvés, on s'est vus peut-être un mois et demi après. Et je lui avais offert mon cadeau. Pour lui, je lui ai offert une petite boîte d'aquarelle parce que je savais qu'il peignait. Et après, il m'a dit, tu sais ce que j'ai fait dès que je suis arrivée avec ta boîte d'aquarelle? J'ai pris un peu de peinture et sur tous mes tableaux, je suis allée me mettre l'accent. Et il est allé se mettre petit.
Elle est chouette, cette petite.
J'en ai fait un conte. Le conte du petit accent. Voilà. C'est vrai. Et lui, en mettant le petit accent, il s'est rattaché à la famille. C'est Cassé qu'on s'appelle, c'est pas Cass.
C'est son nom qu'il y avait sur le tableau, vraiment, quoi.
Oui, mais lui, il signait partout Cass, et il est allé, tchac. Maintenant, il se fait appeler Cassé, à l'origine. Il met le petit accent.
C'est le petit accent qui recrue le lien, quoi, c'est beau.
J'en ai fait l'histoire d'un petit accent.
Oui. Voilà.
J'en ai fait un conte. Dans un recueil de trucs.
Ouais, d'un coup, le nom prend une vie, une signification, un peu une histoire. Il représente beaucoup de choses d'un coup.
Tout à fait. Oui, il représentait un lien à un terroir, à une famille. Ça, c'était très, très fort, très important pour moi.
Eh bien, je te remercie. On va devoir y aller parce que tu as cours à 5h, c'est ça ?
Ouais, 5h, 5h30.
Oui.